Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Certaines personnes adultes sont toujours dépendantes de leurs parents, dépendent toujours de leurs parents, même après s'être mariés. On les appelle souvent les fils à papa. D'après certains, ce sont des enfants gâtés, capricieux et qui ne développent aucun sens des responsabilités. Avant de prendre une décision, le fils à papa se réfère toujours à ses parents. Alors, je vais demander à papa, je vais demander à maman. Et ce sont les parents qui décident sur sa vie, sur la vie de sur son couple, sur ses enfants, sur sa femme et sur bien d'autres choses. Alors, quelles sont les causes et les remèdes à ces phénomènes, fils à papa, phénomène fils à papa? Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous. Vous connaissez des fils à papa dans votre quartier? N'hésitez pas à appeler nous pour témoigner. Appelez au 081-890-63-94. Professeur Adelar Kwanzaka, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, le phénomène, on parle du phénomène fils à papa. Les gens qui ne savent pas voler de leurs propres ailes, quelles sont les raisons à la base d'Islam?
Oui, en fait, il y a fils à papa, bien sûr, mais aussi fille à papa. C'est pas exclu, hein.
Oui.
Donc, c'est un phénomène, en fait, qui concerne, comme vous l'avez si bien dit, les enfants gâtés, hein, les enfants chouchoutés par leurs parents, les enfants à qui on ne refuse rien, ou presque. Mm-hmm. C'est un phénomène lié essentiellement à une mauvaise socialisation, dont les racines sont multiples. Il s'agit des aînés, généralement, des aînés de famille, ou des cadets. Il s'agit aussi des enfants uniques, filles uniques ou fils uniques. Il peut s'agir aussi de fils uniques, garçons uniques parmi les filles ou filles uniques parmi
les garçons. Oui.
Mais il s'agit aussi des enfants dont la naissance était attendue de longue date ou était difficile. Donc c'est dans ces catégories-là que se recrutent les enfants gâtés, donc les fils à papa ou les filles à papa.
Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que ces enfants sont mal éduqués?
Bon, j'emploierais plutôt le terme que nous employons souvent en sociologie, c'est la socialisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris aux enfants à voler de leurs propres ailes, on les chouchoute, on les aime trop, on les protège de façon excessive, même quand ils sont mûrs. Donc c'est le fruit d'une mauvaise socialisation.
Ouais. Voilà, c'est le fruit d'une mauvaise socialisation. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres causes à base de ce phénomène? Vous avez parlé.
En gros, ce sont ces causes que je viens de citer là. Allô?
Oui, on vous entend, professeur.
Oui. Ces causes-là liées essentiellement à une mauvaise socialisation qui fait que les enfants, on les laisse pas, on les protège, parce que ils sont arrivés difficilement, ou bien ils étaient attendus pendant longtemps, ou bien ils sont fils uniques. On a peur de perdre le fils unique, notamment dans notre communauté. Ici, on considère que le garçon est plus important que la fille. Donc, ce sont ces causes-là qui font que les enfants sont chouchoutés. Ça, c'est de la part des parents. Mais les enfants eux-mêmes aussi se sentent étant mal socialisés, ils se sentent dépendants à 100% de leurs propres parents, et de sorte qu'ils n'ont pas d'initiative, quoi. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative, ils attendent tout de leurs parents, même pour un petit problème qui concerne leur vie familiale, quoi.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de l'école aussi, il y a une mauvaise socialisation?
Bon, l'école, dans l'école, en ce qui concerne l'école, on parlait plutôt d'une éducation à la vie familiale qui n'existe presque plus. On n'apprend plus aux enfants à l'école qu'est-ce que c'est la famille, comment faut se comporter en famille, etc. Donc, contrairement à ce qui s'est passé dans la société traditionnelle où l'école initiatique apprenait aux enfants tout ce qu'il faut pour se situer dans la vie, pour se prendre en charge.
Oui.
L'école actuelle se limite à des matières, très peu de matières qui concernent directement la vie familiale.
Voilà.
Alors, ce phénomène a des conséquences, hein. Je crois que nous allons y revenir tout à l'heure.
D'accord, nous avons un premier auditeur en ligne, Mavé Kisambika, il nous appelle des Kananga. Mavé, bonjour.
Jody Kachama, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Quelle est votre question, Mavé?
Merci beaucoup, Jody. J'avais une petite question à poser à notre invité. Je l'ai bien suivi avec beaucoup d'attention. Une question m'a vient en tête que je voudrais lui poser, c'est pas comment est-ce qu'on peut...
Oh, désolé, il n'est plus en ligne, il y a eu un problème. Au niveau de la liaison téléphonique, on va accueillir Joseph. Peut-être que Mavé va nous rappeler. Joseph Lapi nous appelle d'ici Rouen. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Joseph, parlez un peu plus fort. Quelle est votre question?
Oui, j'ai une préoccupation par rapport au sujet du jour. Bien sûr que certains enfants dépendent de leurs parents, mais il y en a aussi d'autres qui ne veulent pas dépendre de leurs parents, mais ce sont les parents qui veulent suivre ses enfants. Par exemple, un enfant à sa femme, et le parent va vouloir que tout ce que la femme achète à sa femme, que son fils puisse aussi l'acheter. Alors, j'aimerais poser une question à l'invité. Si quel conseil l'invité peut donner à ces parents-là qui veulent toujours que leurs parents soient à leur côté?
D'accord, merci. Professeur Adela.
Oui, je crois que les parents doivent passer peut-être dans les pistes de solutions. C'est qu'il faut, dès le départ, associer l'enfant à un certain âge, à certaines décisions. On ne peut pas continuer à enchaîner un enfant qui est déjà devenu mature, notamment un enfant qui a sa propre, qui a une épouse ou un époux. Donc, il ne faut pas le considérer comme mineur. Tout ça, ce qu'il faut faire, c'est assurer, notamment quand les jeunes arrivent à maturation, c'est-à-dire quand ils cherchent à se marier, il faut assurer une surveillance d'arrière-garde, c'est-à-dire les orienter, leur indiquer la bonne voie à suivre, plutôt que leur dicter ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est, on ne trouvait pas très intéressant, parce que même dans nos sociétés traditionnelles, ce n'était pas comme ça. On initiait les enfants à se prendre en charge eux-mêmes. Parce que, en les initiant ici, non seulement ils se prendraient en charge, ils prendraient en charge leur propre famille de procréation, mais aussi les membres de leur famille d'orientation, c'est-à-dire leurs parents, leurs frères et sœurs.
Ouais. Mais professeur, un enfant qui est gâté, les parents lui donnent tout, on lui refuse rien, il ne sait pas comment chercher l'argent lui-même. Alors, il dépend toujours de ses parents, il s'est marié, mais il est toujours dépendant de ses parents. Mais le jour où les parents ne seront plus là, il a du mal à s'adapter à la vie.
Justement, c'est ça, c'est une des conséquences, hein, c'est-à-dire l'oisiveté et le fainéantisme qui se développent quand l'enfant a été pris en charge à 100% jusqu'à l'âge adulte. Et là, il développe un état de dépendance totale et une sorte d'apathie, en fait, une sorte d'inertie. Il y a un manque total d'esprit d'initiative, donc l'enfant ne doit rien faire parce que il n'a pas appris à faire quelque chose, il attendait tout d'autres personnes. Donc, il devient oisif, il devient irresponsable. En fait, il développe un sens élevé de démission. Il ne peut rien faire. Donc, en ce moment-là, il ne peut même pas avoir la possibilité de gérer le patrimoine qu'on pourra éventuellement lui léguer et tout va, il va dilapider ou bien, pas par inconscience, mais par ignorance, tout simplement.
Oui, il y a eu des enfants dans ces pays dont les parents avaient beaucoup de parcelles. Dès que les parents décèdent, c'est fini. Ils vendent toutes les parcelles et puis ils font presque rien avec l'argent.
Oui, justement parce que on ne les a pas associés quand ils étaient jeunes à la gestion, aux décisions et, de la vie familiale, à la gestion du patrimoine familial. On ne leur a pas délégué à certains pouvoirs familiaux ou sociaux. Quand leurs parents vivaient encore. Et on ne les a pas chargés de certaines tâches spécifiques en fonction de leur âge. Donc, c'est ce qui fait que, après, quand il n'y a plus personne pour les guider, ils sont perdus dans la ville. Et c'est ce que vous avez évoqué. Beaucoup voilà. D'enfants dans la Deuxième République qui n'étaient pas associés à la gestion de leurs de biens familiaux ont maintenant dilapidé tout. Ce qui fait qu'il y a des familles ou des anciens ministres, des anciens PDG qui avaient laissé des biens, et maintenant les enfants sont dans la rue, ils sont même locataires. Il y en a qui se sont battus pour se disputer donc le bien familial.
Et quelles sont les autres conséquences, professeur Adela?
Bon, il y a, je disais, il y a l'oisiveté. Il y a un manque total de responsabilité, il y a la démission. Il y a l'apathie, c'est-à-dire l'inertie liée à un manque total d'esprit d'initiative, et un développement accru de l'état de dépendance totale de l'enfant. Et tout cela fait que l'enfant est perdu quand ses parents ne sont pas là. Il n'a pas appris à imaginer des solutions à des problèmes qui se posent devant lui.
Voilà, un enfant, un fils à papa qui s'est marié, il a une femme, il a des enfants, mais les parents continuent à diriger son foyer. Et quand il faut prendre une décision, il s'y réfère toujours à ses parents.
Et cela n'est pas sans conséquence, hein. Cela n'est pas sans conséquence parce que lui, qui se réfère à ses parents ou à qui ses parents dictent leur volonté, ses enfants voient. Et les enfants ne sont pas bêtes. Ils vont reproduire ce que le comportement de leurs parents. Comme ce parent n'a pas été socialisé, il n'a pas été associé à la gestion de, disons, il n'a pas lui-même pris les décisions pour gérer sa famille, et comme ses enfants voient ça, ils vont reproduire et ça ne pourra que avoir des conséquences sur sa propre progéniture.
Nous avons un autre auditeur en ligne, Berthe Moukekoua, qui nous appelle des Colésies. Bonjour Berthe.
Bonjour Jedi, bonjour aussi à l'invité.
Et on vous écoute.
Ok, ma préoccupation est la suivante. Dans notre famille, hein, nous avons un frère, donc il est privilégié. S'il lui demande quelque chose, les parents lui donnent en première position et nous autres nous suivons après. Alors on peut dire aussi de ce que c'est le phénomène fils à papa ou quoi. Je vous remercie.
Voilà, votre frère est privilégié, donc tout ce qu'il demande, on lui donne, et vous, vous devez attendre après. D'accord, l'invité va répondre tout à l'heure. Modeste nous appelle, il est à Lumumbwe, dans la... Ah, il est à Mulumbwe, voilà, dans la province du Katanga. Modeste, bonjour.
Je suis à Mulumbwe, dans la province du Katanga.
À Mulumbwe, veuillez fermer votre radio, Modeste, vous allez suivre à partir du téléphone pour éviter des effets. Un retour à l'antenne, s'il vous plaît.
Allô?
C'est fait?
Oui, c'est fait.
D'accord, on vous écoute. Hein.
J'ai déjà éteint.
D'accord, on vous écoute. Hein.
Allô, Jody?
Oui, bah, allez-y, vous pouvez maintenant poser votre question.
La question est la suivante.
Oui.
Est-ce qu'à cause de la pauvreté, le parent peut imposer son enfant à rester toujours sous son toit pendant qu'il a une femme et ses enfants?
Comment ça?
J'ai compris.
D'accord, le professeur a compris. D'accord, il va répondre tout à l'heure. Patient Paul est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour donc, je dis Kachama, ainsi qu'à notre invité.
Allez-y.
Oui, j'aimerais savoir donc auprès de notre invité, quel est l'inconvénient lorsque donc, un parent autorise à ce que donc, son enfant ne fasse pas donc, autre chose, et qu'il s'attend toujours donc, à hériter le bien. Parce que donc, j'ai un grand frère,
oui.
Ici, vraiment à Kinshasa, qui vraiment donc, il a déjà 54 ans, mais jusqu'à l'heure actuelle,
oui.
La maman prépare pour lui donc du thé et il lui achète donc un pain.
Il n'a pas une femme?
Il n'a pas une femme.
Il veut pas
il
se marier.
Il n'a pas une femme non même. Est-ce que le fait donc de privilégier donc l'enfant bah, de telle façon n'est-ce pas vraiment donc ces petits filles donc à devenir vraiment un jour un grand homme dans ce pays?
Oui, patient, il est à la maison, maman achète du pain et prépare du thé parce qu'il n'a pas de travail.
Ah, il ne fait aucune activité.
D'accord.
Il ne fait aucune activité. Est-ce que c'est une façon aussi de l'encourager donc peut-être donc dès qu'il sera aussi grand et donc la langue donc que son enfant aussi puisse aussi donc hériter de telle façon l'héritage. Voilà.
D'accord. Merci professeur Adela.
Oui, bonjour. Merci. Je commence par la question des patients. On n'attend pas l'héritage en ne faisant rien, en étant apathique. On attend l'héritage. Il faut d'ailleurs renforcer le bien pour qu'on ait un héritage un peu plus important. quand quelqu'un est comme ça, il mange, il n'apprend même pas à gérer cet héritage-là. Ce n'est pas normal. 54 ans, elle est toujours là. Bon, je sais qu'il y a des problèmes de chômage, mais jusque-là, il ne peut ne fût-ce qu'apprendre à gérer l'héritage. Et là, je connais la mère. C'est peut-être le genre d'enfant unique dont j'ai parlé auparavant, dont on ne veut pas se séparer. Donc, il faut, ce n'est pas normal. Il faut que la maman, là, initie son enfant à ne fût-ce qu'apprendre à lutter. Il peut faire lutter lui-même, même si c'est un garçon. Donc là, ce n'est pas normal. Concernant Modeste, qui parle de la pauvreté, est-ce que la pauvreté, ce qui pousse les parents à faire en sorte que leurs enfants demeurent à domicile? Non, il y a plusieurs causes. Hein.
Oui.
Peut-être c'est une des causes, mais il y a un problème social aussi qui fait que parfois les enfants, les parents ont du souci à faire partir leurs enfants, notamment quand ils sont mariés. Ils n'ont pas la facilité de les laisser aller en ce qu'on appelle résidence virée locale, c'est-à-dire quitter la maison pour aller voler de tes propres ailes. Il y en a qui disent, non, quand tu pars comme ça, tu ne voudrais pas que ton épouse prépare pour nous, pour tes frères, etc. Mais le parent qui aimerait leurs enfants, qui les ont bien socialisés, ils les laissent facilement aller voler de leurs propres ailes.
Oui.
Et en ce qui concerne Berthe, qui a appelé de Colouésie, elle parle plutôt de son frère.
Qui est choyé, tout ce qu'il demande, on lui sert, et
ouais.
Les autres doivent attendre.
Oui, ça c'est peut-être dans le cadre de la discrimination basée sur les gens. C'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas s'il y a d'autres garçons dans la famille, j'ai parlé d'enfants uniques ou de garçons uniques parmi les filles ou filles uniques parmi les garçons. Donc je crois que peut-être le frère de Berthe, privilégié par leur père, serait dans une des catégories. Mais c'est de fait qu'il faut absolument combattre, parce qu'il faut, dans les pistes de solutions, je dirais que il faut, pour combattre cet état de choses, il faut socialiser les enfants de la même manière, qu'ils soient filles ou garçons, c'est-à-dire bannir toute discrimination basée sur les sexes ou basée sur les genres, pour que les enfants soient socialisés de sorte qu'ils deviennent autonomes et qu'ils soient capables de prendre en charge, de prendre en charge leur famille et disons, de s'insérer utilement dans la communauté.
Voilà. Romain nous appelle depuis, il est non loin, voilà, non loin de Harou, il est à Oumeda, en province orientale. Romain, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'allais juste poser la question. L'enfant, c'est l'enfant qui se fait enfant chérub, c'est le père qui le fait, qui le berce, qui lui apporte ce nom de l'enfant chéri. Parce que normalement, un papa, peut-être dans un royaume ou peut-être dans une famille, qui peut préparer son enfant, il était peut-être une personne responsable, il a voulu préparer son enfant, l'un de ses enfants. Est-ce que c'est un phénomène, c'est un phénomène enfant chérub, peut-être, il a voulu que le préparer de ses enfants par sa compétence intellectuelle ou peut-être morale. C'est juste ça que j'allais poser la question. Merci. C'est Romain Ndouba, parce qu'il est né pour mettre un dialogue pour arranger Romain Ndouba.
D'accord. Joël Kabbala, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui.
Nous parlons du phénomène.
Bonjour, oui. D'abord.
Bonjour, on vous écoute.
Oui. J'aimerais juste conseiller, parce que ma préoccupation, bon, j'ai pas vraiment de préoccupation, mais j'aimerais que le parent qui confond l'amour à autre chose, parce que, voyez-vous, quand vous prenez l'enfant, et puis vous mettez à lui dicter ce que l'enfant doit faire. Les parents oublient une chose, parce que quand ils vont grandir, ces enfants-là doivent le prendre en charge. Et maintenant, quand on leur montre pas de bons chemins, et supposons que l'enfant et les parents grandissent comme ça, et puis ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien pour donner à l'enfant. Et cet enfant-là ne sait pas, il n'était pas préparé pour affronter la vie. Comment est-ce qu'il va prendre en charge ses parents? Donc, c'est vraiment un grand devoir à ce que les parents ne puissent pas confondre l'amour à autre chose, parce que il y a un monsieur qui m'a dit l'amour de Joseph n'avait pas aidé, l'amour, pardon, de Jacob n'avait pas aidé Joseph, mais c'était la haine de ses frères qui l'ont aidé. Donc certes, je ne demande pas ce que les gens puissent avoir de la haine contre cet enfant-là.
D'accord.
D'avoir l'amour normal pour que ses enfants puissent grandir. Donc merci.
D'accord, merci. Professeur Adela.
Oui, je suis d'accord avec le dernier intervenant. C'est que dans notre société où le service de prise en charge, les frais de vieillesse sont modiques, on compte souvent sur les enfants pour prendre en charge leurs parents vieillissants. Et d'ailleurs, il y a une musicienne qui est maintenant décédée, Pongolo, pour ne pas la citer, qui a dit que l'enfant, c'est votre sonat, c'est-à-dire que l'enfant, c'est votre assurance vie. Quand les enfants ont été mal socialisés, on a beaucoup d'exemples ici, quand les enfants ont été mal socialisés, ils ne sont pas capables de prendre en charge leurs parents, de les aider quand ils deviennent vieux. Au contraire, cela constitue un danger pour les parents, parce que les enfants cherchent à ce que ses parents meurent vite pour qu'ils profitent de l'héritage, dilapider cet héritage et peut-être faire autre chose. Alors, il y a Romain qui a parlé des enfants qui sont préparés à certaines fonctions. Oui, ça, c'est normal. Les enfants qui sont préparés à certaines fonctions. Et Joseph a bien dit, Romain plutôt a bien dit, préparés. Ça signifie qu'ils sont socialisés pour prendre en charge certaines choses, de prendre en charge eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur a appris quelque chose pour se situer dans la famille, pour se situer dans la communauté. Donc, cela... pour cela, on ne peut pas parler des enfants qui sont gâtés ou des enfants de fils à papa.
Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire qu'un fils à papa peut réussir une vie de couple? Parce que là, il est chef de la famille, il doit prendre des responsabilités, il y a des projets à faire ensemble avec son épouse ou à son époux. Est-ce que ça peut pas créer d'autres problèmes dans le couple?
Oui, souvent ça capote, parce que dans le couple, ce sont deux personnes qui viennent de familles différentes. À supposer que la femme vient d'une famille où il a vu ses parents leur céder aux enfants des responsabilités, les initier à certaines tâches, et que de l'autre côté, vous avez un garçon, un mari, qui était tout à fait gâté, à qui on a porté le petit déjeuner dans la chambre à coucher, et bien, ils ne vont pas s'entendre, hein, et le couple peut capoter. Maintenant, ce sont ce couple-là où vous avez des conflits permanents où ce sont les parents qui doivent toujours aller trancher ce conflit.
Oui.
Alors que quand les gens se sont mariés, on suppose qu'ils ont la maturité nécessaire pour se prendre en charge eux-mêmes, régler leurs conflits en évitant d'associer toujours leurs parents à leurs conflits.
Raphaël nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Raphaël Tungunga de Lubumbashi.
On vous écoute.
Oui, c'est un bon sujet aujourd'hui. Je sais que vous félicite du fait que je fais partie des catégories des gens que vous venez de citer.
Le fils
je
à papa.
Suis aussi fils unique.
Oui.
Concernant d'abord pour les sujets, moi je dois vous demander pour que vous puissiez changer ce fils pour maman qui est dit fils pour papa. Parce que ce sont les mamans vraiment qui nous gâtent beaucoup, ce ne sont pas les papas.
Alors, vous avez été gâté par votre maman, vous voulez dire?
Bah oui, mon enfance, il y a des fois, même souvent quand j'ai parti à l'école, et même elle est arrivée à me donner une punition, et si la maman arrivait à prendre cette information, directement, toujours des problèmes jusqu'à l'école.
Donc, elle allait tonner sur l'enseignant qui vous avait puni?
Oui, c'est ce qu'elle faisait. Et maintenant, lorsque le papa avait vu comme ça, il avait changé le système, il a commencé à m'envoyer à l'extérieur. Et il avait changé le système, il n'a pas accepté que je puisse vivre avec elle une année.
Et vous êtes allé...
Pendant les vacances,
oui.
Il m'a envoyé que dans d'autres villes. Oui, pas à travers ces gestes ou cette décision que le papa... L'initiative des papas avait prise. Maintenant, ma vie a changé. Parce qu'aujourd'hui, pas à travers les souffrances que je suis en train de connaître à l'internat, même aujourd'hui, je suis éterne à l'université.
Mm-hmm.
il y a des changements maintenant. Même la maman est venue comprendre après que non, ce que j'étais en train de faire, c'était mauvais. C'était une mauvaise plaisir. Parce qu'il arrivait même lorsque le papa arrivait à donner sur moi, donner des blâmes, prendre une maison, par exemple, que non, je ne dois pas manger. Et par finalité, la maman va venir même la nuit me donner à manger. Alors là, je ne craignais rien. Oui, c'est ça, ça. Aussi, chaque enfant doit être responsable de sa vie. Du fait que les parents, peut-être qu'ils sont les plus âgés, peuvent gâter les enfants, mais l'enfant aussi doit voir que non, les parents ne seront pas éternels. Chacun doit vivre, doit avoir bien préparé son avenir.
D'accord. Merci Raphaël Bonas, nous appelle de Moba au Katanga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Bonas.
Merci. C'est le problème par rapport au sujet d'aujourd'hui.
Quelle est la question?
S'il y avait un papa qui aurait enfanté un enfant aveugle, et cet enfant-là s'est marié à son ami aveugle, et tout le dé là aurait été dépendant de ses parents. À propos de ça, quelle serait la proposition de notre invité?
D'accord, merci. Professeur Kontaka.
Bon, que faire pour le mariage des aveugles? Ben bon, je crois que les parents peuvent bien les prendre en charge, mais ils mourront un jour. Il y a des écoles de formation pour aveugles, il y a des écoles où on apprend aux aveugles les métiers, à se débrouiller tout seul. Donc, je crois que ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent les prendre en charge jusqu'à un certain niveau, mais les aider à prendre un métier, à de sorte qu'ils soient utiles à eux-mêmes, notamment eux, l'indépendance pour un mariage pareil, pour des gens pareils, c'est plus difficile que pour des personnes plus valides. Donc, dépendance jusqu'à un certain moment, mais il faut les socialiser, les amener dans des écoles spécialisées pour qu'ils se prennent en charge. Alors, pour Raphaël, je suis très content parce que c'est un cas vraiment typique des enfants, des fils à papa. Lui préfère dire
fils à maman.
Fils à maman. Et lui, Raphaël, a eu de la chance.
Oui.
Et cela, heureusement que son père était vigilant. Il y en a tant d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là de Raphaël et qui se sont retrouvés comme ça, attendant que leurs parents meurent. Et il y en a même qui ne parviennent pas à aller à l'école. Souvent, ces enfants, même quand leurs parents ont des moyens nécessaires, tellement ils sont gâtés, parfois, ils n'ont pas toujours, je dis pas que tout le monde, mais pour la plupart, dans la plupart des cas, n'ont pas toujours de bons résultats scolaires et souvent ils ne réussissent pas leurs études. Et quand ils ne réussissent pas leurs études, ils attendent que les parents, ils n'ont rien appris donc pour se prendre en charge, ils attendent seulement l'héritage et ils font en sorte que ils souhaitent que le parent meure vite pour qu'il hérite de leur bien. Et ce n'est pas bon.
Ouais, et même on a appris qu'il y a certains fils à papa, les parents les envoient en Europe pour étudier, ils n'étudient pas, ils n'aiment pas aller étudier, ils font des folies avec l'argent de leurs parents, ils sont dans des boîtes, ils dépensent, ils dilapident l'argent, donc ils font beaucoup plus de folies.
Oui, et puis ils développent un comportement plus grave, parfois allant jusqu'à l'escroquerie, parce que souvent, quand on leur donne des moyens, ils dilapident tout, c'est terminé. Et pour survivre, faire semblant, faire croire à leurs parents restés au pays qui sont étudiants, et ils cherchent le moyen pour survivre là-bas. Et parfois, ils vont juste utiliser des moyens tout à fait illégaux pour faire face à leurs besoins. Et c'est pas normal.
Alors, comment prévenir ces genres de situations? Vous avez parlé de la socialisation. Comment arriver à le faire?
D'abord, je disais qu'il faut associer l'enfant à certaines décisions familiales, à un certain âge, quoi. Il y a des enfants qu'il faut associer à certaines décisions familiales. Il faut aussi déléguer certains pouvoirs familiaux et sociaux, comme cela se faisait dans la société traditionnelle. Quand l'enfant commençait à devenir adulte, le père ou la mère l'associait, l'amenait là au champ, l'amenait à la pêche, l'amenait voir un peu comment où il faut faire un champ, etc. Et l'amener voir aussi certains membres de familles qui étaient dans des villages éloignés. Ça, c'était pour les responsabiliser déjà. Il faut aussi charger les enfants
de certaines tâches spécifiques en fonction de leur âge dans la vie familiale. Les tâches de la cuisine, de la lessive, nettoyage de la parcelle, achat, courses dans des marchés, etc. Il faudra également, comme je l'ai dit, je le redis, bannir toute discrimination basée sur le genre, sur le sexe.
Oui.
Il faut socialiser les enfants de la même manière, de sorte qu'ils soient, filles et garçons, soient capables de se prendre en charge, que filles et garçons soient capables d'aider leurs parents vieillissants. Et donc, il faut socialiser les enfants pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à leur famille et à la communauté, comme je l'ai dit auparavant.
Quand les enfants sont punis à l'école, il ne faut pas aller gueuler sur l'enseignant.
Parce que l'enseignant, ça dépend, parce que l'enseignant a appris son métier, il fait son métier. Les enfants, les enseignants ne sont pas des fous pour taper les enfants ou les gronder sans cause. Les enfants doivent être punis s'ils ont... Parce que la punition, c'est... occasionne le changement. Les enfants ne sont pas punis quand ils n'ont fait aucun mal. Même en famille, quand les enfants sont punis, il faut, quand les enfants commettent une faute, il faut les punir. C'est de cette manière qu'on peut mieux les socialiser.
Hein. On a suivi Raphaël dit son papa le punissait et la maman venait en cachette avec la nourriture.
Oui, justement, là, c'était une... vous voyez, quand on éduque les enfants, il faut toujours avoir des décisions secrètes. C'est-à-dire, les parents doivent discuter secrètement de ce qu'il faut faire, des punitions à infliger, et de l'attitude de l'autre parent face à la punition. Et souvent, quand de tels actes montrent à l'enfant que ses parents sont divisés, et il en profite, n'est-ce pas, pour les diviser davantage, et ça crée des scènes de ménage très impressionnantes, et souvent difficile à gérer.
Bien, merci professeur Adelard Kwanzaka, je rappelle que vous êtes sociologue à l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu aux préoccupations des auditeurs et à la prochaine.
Merci à vous.